Alors en mai 48, le mandat britannique en Palestine s'achève. L'État d'Israël est alors proclamé et immédiatement contesté par les pays arabes. Ce qui était une guerre civile depuis novembre 47 augmente d'un cran pour devenir la guerre de Palestine de 48-49. Les autorités britanniques chargées de la sécurité des populations locales quittent le pays et les notables palestiniens fuient. Selon l'historien français Henri Laurence, ces départs accélèrent la décomposition de la société palestinienne et l'exode de la population arabe du territoire. Cette dernière a nommé l'exode Nagba, qui signifie catastrophe en arabe, et qui s'incarne dans l'image du vieux palestinien conservant précieusement son certificat de propriété et la clé de sa maison. Si le terme Nagba fait écho à celui de Shoah, qui signifie également catastrophe en hébreu, la Nagba n'en a pas du tout la même valeur. La catastrophe des Juifs les a encouragés à partir. La catastrophe des Palestiniens, c'est justement d'avoir dû partir et surtout de n'être jamais revenu. Pour Henri Laurence, le problème du retour est double. D'une part, les Israéliens considèrent cette volonté de retour comme fondamentale pour les Palestiniens et cette volonté légitime pour eux, leur politique sécuritaire. D'autre part, le retour est inacceptable puisque, dans ce que Laurence appelle un jeu à somme nulle, ce retour se ferait au détriment de la population israélienne sur laquelle serait alors reportée la catastrophe. C'est pourquoi la refondation d'un foyer palestinien par le retour se transforme au fil du temps en mythe, mythe d'une refondation qui repose par conséquent chaque fois plus lourd sur l'épaule des fils. Selon moi, ce sont ces fils fondateurs, d'où le titre, que met en scène le cinéaste palestinien Hani Abou Assad dans son dernier film Omar, sorti en France le 16 octobre 2013. Voici le pitch rapidement. De nos jours en Cisjordanie, Omar, Amjad et Tarek sont amis d'enfance. Désormais âgés d'une vingtaine d'années, ils montent à eux trois une cellule armée et attaquent un camp militaire local. Ils tuent un soldat et Omar est capturé. Pour ne pas qu'il reste toute sa vie en prison, l'armée israélienne lui propose un marché, rejoindre les siens afin de trahir Tarek, le chef du groupe. Mais parce qu'il souhaite épouser la sœur de Tarek, Nadia, Omar accepte le marché pour pouvoir ensuite s'y soustraire. Je vous passe la scène d'ouverture. Voilà. Alors, dès cette première scène, on comprend quels sont les rapports entre les personnages et notamment quels sont les rapports de force entre les trois protagonistes masculins, Tarek, Amjad et Omar. Tarek semble être craint et respecté par les deux autres hommes, surtout par Omar, qui a pris tous les risques pour le trouver. Paradoxalement, aux représentations habituelles, et pas au film, nous le verrons, cette crainte est moins partagée par Nadia, qui, même si elle finit par s'y soumettre, se moque de lui. C'est donc essentiellement dans son rapport aux autres garçons que Tarek fait figure d'autorité, autorité d'aîné plus qu'autorité de mâle. Dans cette scène, Tarek est dans l'axe de la caméra, au milieu des deux autres personnages. On remarque qu'il est assis sur un grand fauteuil, tandis qu'Omar est dans un canapé, ce qui sied aux invités, et Amjad, à gauche, est dans le plus petit fauteuil près des enfants. Le personnage d'Amjad intervient ici pour la première fois durant l'échange entre Tarek et Omar. Contrairement aux deux autres hommes, Amjad n'a pas été introduit auprès du spectateur. Omar a eu son gros plan regard et son morceau de bravoure. Tarek est évoqué avec retenue par sa sœur et par Omar. Amjad, lui, rentre dans la conversation comme il rentre dans le film, c'est-à-dire comme un intrus. Il ose une blague, Tarek n'avait pourtant pas ri à celle d'Omar, mais il se prend le ballon d'un jeune garçon dans le visage, ce qui le rend ridicule et le renvoie, par conséquent et par la présence même du ballon, à sa propre situation, celle du moins mûr, du moins fort, bref, du moins homme. Vexé, il sermonne alors les plus jeunes. Par son attitude générale, Amjad joue donc à être un père comme il joue à Marlon Brando, celui du parrain, évidemment, italien d'aucune sorte, et maquillé pour faire 10 ans de plus. Cette imitation d'une imitation lui est imposée pour avoir du café, ce qui est honteux tant il s'agit d'un moment très important pour la population arabe, et notamment palestinienne, qui en a fait un rituel, un ciment communautaire. C'est généralement le patriarche qui se charge de brunir les grains du café, qui sera servi par les femmes ou les plus jeunes pour être bu tous ensemble. Selon la journaliste palestinienne Asma Al-Ghul, le café est chez les Gazaouis, je cite, une boisson associée à la tristesse et au sérieux, fin de citation, trait qui caractérise tout à fait le personnage de Tarek. De même, dans Une mémoire pour l'oubli, en 1994, le poète palestinien Mahmoud Darwish écrit, je cite, « Le café est ce lait maternel toujours offert pour étancher la soif des hommes au loin, point du jour né d'un goût amer, lait de virilité. » Fin de citation. Cette quête de virilité est sans doute la raison de l'engagement des trois personnages dans la lutte armée, engagement précaire, sans revendication précise, dans une cellule improvisée. Il y a là une dimension ludique associée à la quasi-absence dans le film de Palestiniens âgés, voire même seulement adultes, qui accroît le caractère juvénile des personnages. Cette juvénilité est néanmoins une réalité palestinienne. Voici la structure par âge des habitants de Cisjordanie et de la bande de Gaza aujourd'hui. On voit que plus de la moitié de la population cisjordanienne a moins de 25 ans. Dans la bande de Gaza, ce chiffre monte aux 2/3 de la population, avec 2 habitants sur 5 de moins de 15 ans. À titre de comparaison, un peu moins d'un tiers de la France a moins de 25 ans. La nation palestinienne patriarcale, comme elles le sont souvent, très majoritairement composée de fils fondateurs qui le sont encore plus, cette nation a donc besoin de fabriquer des hommes plus rapidement que les autres. La guerre, en tant que dépucelage, permet justement cela. Je vais montrer une scène très courte qui dure 2 minutes sur justement l'attaque du camp militaire par cette cellule improvisée. Alors, vous avez vu le petit sourire d'Amjad hein, après avoir tiré, comme si effectivement il s'amusait à un jeu de tir, tout simplement. Alors, Amjad, en tant que Benjamin du groupe, est assis derrière lorsqu'il roule pour aller au camp militaire, comme effectivement n'importe quel enfant. Au pied du camp militaire, c'est Tarek qui porte le fusil et le donne à Amjad. Durant les préparatifs où chacun a tiré correctement, les personnages n'ont à aucun moment, selon le spectateur, posé de telles conditions. D'ailleurs, Amjad hésite, Tarek s'énerve. Tarek dit « Omar a volé la voiture, j'ai tout prévu et toi tu tires ». Omar propose alors « Je peux m'en charger ». Mais Tarek rétorque « Non, ce n'est pas un jeu, sous-entendu ce n'est plus un jeu, on ne devient pas un résistant juste en observant ». Pour le spectateur, l'opération de résistance s'est muée en épreuve d'initiation, où la prise de risque semble démesurée en regard d'un résultat qui n'importe plus et que la mise en scène dédramatise. Voilà ce que voit juste avant de tirer Amjad. Hein, la victime est un soldat non armé, abattu à grande distance, à la lunette, touché dans le bas du ventre, même si l'on apprend plus tard qu'il en décédera. De nouveau, cette scène témoigne d'une réalité palestinienne. Au début des années 2000, lors de l'affaire Mohamed Al-Dura, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, hein, un père et son fils palestinien pris entre deux feux et qui meurent, dont on a cherché longtemps si c'était sous les balles palestiniennes ou israéliennes. Lors de l'affaire Mohamed Al-Dura, les partisans d'une mise en scène du drame mettaient en avant la présence d'adolescents debout sous le feu. Or, le drame s'est déroulé un jour de protestation des Palestiniens, où l'armée israélienne utilise régulièrement des balles en caoutchouc, avant malheureusement qu'elle ne tire à balles réelles, les études l'ont prouvé par la suite. Il est notoire que les adolescents palestiniens essuient ces tirs non létaux pour prouver leur bravoure, quitte, c'est même préférable, à être légèrement blessés. De même, l'emprisonnement est perçu chez ces jeunes comme la preuve que l'on est devenu un véritable résistant et donc un homme parmi la communauté. Dans Omar, l'action armée des trois garçons participe donc d'une sortie de puberté et il est à noter qu'Omar, parce qu'il se fera emprisonner, parce qu'il éprouvera les geôles, gagnera un peu plus la confiance de Tarek et le cœur de sa sœur. Durant l'opération contre le camp militaire, il faut insister sur l'usage d'un fusil à lunettes, figure phallique évidente. Le psychiatre libanais Adnan Oubala explique que cette dimension phallique est essentielle chez les adolescents soldats, pris dans une guerre qui autorise la mise en acte de leurs fantasmes inconscients, en particulier le viol, fantasmes toujours subordonnés aux menaces de la castration, très courantes en temps de guerre. Dotés de ce phallus d'acier, ces adolescents sont reconnus comme des adultes anticipés par leurs aînés et leurs chefs, sans avoir besoin de la reconnaissance paternelle. Et ce passé des pères, c'est justement ce que veulent les fils fondateurs d'Abou Assad. Selon Jean-Daniel Kos, professeur de psychanalyse, la filialité comme catégorie anthropologique constitue une définition de notre propre humanité. Fin de citation. Cela signifie que personne n'est l'origine de lui-même et en même temps, chacun est différent de ceux qui l'ont engendré. Jean-Daniel Kos ne parle pas ici de l'humanité comme vertu, mais comme identité. L'identité qui serait ici le plein équilibre entre la conscience de venir de et la volonté de devenir. Aujourd'hui, de jeunes Palestiniens tout juste sortis de l'adolescence sont animés par une volonté de revenir. Je précise que même s'il s'agit de recouvrer l'intégrité du territoire sur lequel ils vivent encore, la Nakba, l'exode, comme événement structurant sur le plan national, associe par définition ce recouvrement à un retour. Or, ce retour est, nous l'avons dit, inacceptable, et quand bien même une nation veut se construire sur la conscience d'une unité historique, cette histoire doit toujours aller de l'avant, comme l'explique l'historien français Pierre Nora, spécialiste du sentiment national. Je cite « L'histoire est un mode d'organisation de la perception du passé qui aboutit à un récit cohérent et qui débouche sur des perspectives générales sur l'avenir. » Fin de citation. Désormais, une grande partie de la population palestinienne cherche avant tout à garantir sa sécurité et son approvisionnement, ses institutions et son éducation, et donc à former plutôt une unité sociale. La majorité des cadres de l'Organisation de libération de la Palestine prennent aussi conscience que la société civile et leur propre organisation importent autant que les problèmes de frontières, ce que le gouvernement israélien oublie pour le coup trop souvent. Selon Annie Abou Assad, venue fin 2013 au Café des Images d'Hérouville-Saint-Clair, les jeunes hommes palestiniens, contemporains d'une seconde intifada qui est pour eux la première et qui couvre au moins la première moitié des années 2000, ces jeunes hommes sensibles au nationalisme qui mine trop souvent la démarche des historiens palestiniens, ces jeunes hommes donc ne goûtent guère la volonté de conciliation de leur père. Ils trouvent donc ce qui leur manque dans la lutte armée contre de jeunes hommes eux aussi nourris d'idéologies nationalistes et violentes, et bien entendu de machisme. Le réalisateur Nadav Lapid, réalisateur israélien Nadav Lapid, le montrait très efficacement dans son dernier film « Le policier » en 2011, et déclarait à ce sujet, je cite, « La virilité est pour moi une clé pour comprendre l'état des choses en Israël. En observant la manière dont les hommes se comportent entre eux et avec les femmes, on peut creuser l'âme israélienne et comprendre pourquoi il n'y a pas de paix ni de révolution possible. » Fin de citation. Dans le film d'Abou Assad, le personnage d'Omar va être pris en charge bon gré mal gré par Rami, un agent de la police israélienne. Dans le schéma père-fils, le père, d'abord guide, devient celui dont il faut se séparer. Là, l'ennemi va devenir une sorte de père. J'insiste sur le « une sorte ». En effet, ce rapport inédit va à rebours du processus normal, mais c'est de surcroît un père de trop qui s'impose lorsqu'il faudrait tuer le père, le vrai, et qui s'impose parce qu'il incarne une idéologie qui flatte les pulsions adolescentes, vitalistes et viriles de ses fils qui ne peuvent plus devenir pères à leur tour. Parallèlement à la reconnaissance des pères, P-E-R-E-S, dont se sont débarrassés les fils fondateurs, succède la reconnaissance par les pères, P-A-I-R-S. Dans la scène finale du film, le rapprochement avec l'agent Rami devient tel que le rapport entre les deux hommes a atteint son point limite. C'est donc la scène de fin. Omar est à droite, Rami est à gauche. Hein, il lui dit, phrase typique justement de ce machisme militaire, hein, un revolver c'est comme une femme. Et en contre-champ, on a un plan où, à ce moment-là, c'est l'un des derniers plans où on voit Omar. Les deux sont, je ne sais pas s'il y a un travail effectivement de maquillage sur les cheveux de l'acteur qui me semble être plus gris sur l'image d'avant, on a l'impression qu'en fait il se regarde dans un miroir. Cette relation donc arrive à un point limite et elle doit cesser car elle est devenue malsaine. Comme l'explique Adnan Oubala, si la relation au père est celle du surmoi, c'est-à-dire dominée par la crainte, la relation au chef de guerre est celle de l'idéal du moi, dominée par l'amour et donc l'inceste. Ainsi, c'est une issue absolument contraire à la construction en tant qu'homme et en tant que père. Et en cela, la quête de masculinité des fils fondateurs est vouée à l'échec, comme la praxis sur laquelle ils misent pour y parvenir, c'est-à-dire la lutte armée. Je me dois ici, j'en suis désolé, de révéler une partie de l'intrigue, très petite, bien qu'elle est logique en regard de ce qui a été dit. C'est Amjad, le personnage le moins masculin par son apparence et son comportement, qui épousera Nadia. En conclusion, Hani Abou Assad, en tant qu'activiste non-violent, semble considérer que, parmi les forces vives de la nation, ce sont les femmes les plus efficaces, parce qu'elles cherchent à établir la paix en même temps qu'à construire une société civile égalitaire. En effet, elles se battent à la fois comme citoyens palestiniens et comme citoyennes. Dans Omar, leur figure est Nadia, ici, dans son plan final, déterminée, pragmatique, et désormais assise exactement comme l'était Tarek le père dans la toute première scène, c'est-à-dire dans ce grand fauteuil. Or, et mon intervention s'arrêtera avec ce chiffre, si la part des jeunes est très élevée en Cisjordanie comme à Gaza, la part des femmes, elle, est à peu près équivalente à celle des hommes. Merci beaucoup.